nous passer des marchés financiers pour financer l'investissement, celui du salaire à vie qui manque, on peut se passer du marché du travail, bref, qu'on a déjà à notre disposition à cause des luttes autour du salaire au XXe siècle, de quoi travailler sans employeur et sans actionnaire. Et c'est cette généralisation de cette réalité qui, à mon avis, est à l'ordre du jour. Nous prouvons, et cela concerne près de la moitié du PIB, c'est pas tout à fait rien, c'est pas marginal, hein. Nous prouvons que nous pouvons produire de la valeur économique, travailler sans patron et sans actionnaire. Et pourquoi pas aller au bout, c'est-à-dire supprimer les employeurs et le marché du travail, supprimer la propriété lucrative et les actionnaires, généraliser la propriété d'usage de tous leurs lieux de travail par les travailleurs, puisque nous le faisons déjà à très grande échelle et que nous expérimentons, parce que ça reste encore majoritaire, combien employeurs et actionnaires sont des parasites extrêmement inutiles et dangereux. Et c'est ce déjà-là de la sortie du marché du travail, de la sortie de la propriété lucrative, que nous pouvons généraliser. C'est une démarche révolutionnaire, c'est une démarche qui assume le subversif déjà là dans le réel, parce que conquis dans des luttes antérieures, et qui le pousse plus loin, pour que les institutions capitalistes soit remplacé par des institutions alternatives déjà construites. Hein. Le capitalisme ne s'est imposé qu'au terme de 5 siècles d'évolution contrastée. La sortie du capitalisme n'est pas une affaire de grand soir, bien sûr, tout ça est long, mais elle est déjà commencée depuis un siècle à peu près. Hein. Disons, l'apogée du capitalisme, c'est le 19e. L'alternative au capitalisme, elle se construit depuis un siècle. J'en analyse pas la totalité, bien sûr. Mon propos porte uniquement sur la production de valeur économique, sur l'économie. Mais il y aurait d'autres champs, sans doute, hein, où on pourrait faire une analyse du même type. Je m'en tiendrai, moi. Aux institutions qui subvertissent la convention capitaliste du travail. Puisque quand on parle de valeur économique, on parle de travail. Hein. Le travail, c'est la partie de la production de valeur d'usage qui produit aussi des valeurs économiques. Et cette alternative. Nous n'avons pas à la chercher dans je ne sais trop quel exemple exotique. Elle est là. C'est souvent notre regard qui est voilé, qui est victime de représentations fausses de cette réalité. Par exemple, nous allons dire que les fonctionnaires ont un emploi à vie, par exemple, hein, alors qu'ils n'ont pas d'emploi précisément, hein, et ils ont un salaire à vie. Mais notre identification à travail et emploi est telle que nous ne pouvons pas imaginer que déjà nous ayons des gens au travail dans une logique alternative à celle du marché du travail et qui sont reconnus eux-mêmes, dont la personne est qualifiée, c'est-à-dire reconnue comme porteuse d'une capacité à produire de la valeur économique. Dans le capitalisme, les personnes ne sont jamais qualifiées, ce sont les choses qui sont qualifiées. C'est le poste de travail qui est réputé produire de la valeur économique. Et c'est pour cela que si l'on veut être reconnu comme produisant de la valeur économique, il faut être demandeur d'emploi. Il faut aller quémander un emploi sur le marché du travail, puisque nous sommes niés comme porteurs de qualifications, c'est-à-dire comme producteurs de valeur économique et comme pouvant maîtriser sa définition sa production et son partage. Mais il y a déjà une alternative, ce sont les fonctionnaires, les retraités. Hein. Les retraités sont payés à vie. Hein. Alors évidemment, on n'est pas allé au bout hein, de la démarche. La retraite n'est pas encore 100% du salaire, mais toute la dynamique du XXe siècle, interrompue depuis 15 ans, et c'est cette panne qu'il faut à la fois comprendre et dépasser. Hein. 15 ans, c'est même davantage, depuis 25 ans à peu près. Toute la dynamique du XXe siècle, ça a été la dynamique sociale, ça a été de construire la retraite comme salaire à vie, avec comme revendication 100% du salaire pour la pension, enfin 75% du brut, mais ça veut dire donc 100% du net compte tenu des cotisations dites salariées. C'est ce déjà-là que nous ne voyons pas quand nous disons que les retraités relèvent de la solidarité intergénérationnelle, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas. Ils sont utiles, hein, personne ne niera leur utilité, mais ils ne produisent rien, ils ne produisent pas de valeur économique, ils produisent de la valeur d'usage, mais pas de valeur économique, et la pension qu'ils touchent, c'est une ponction sur librement consentie, parce qu'il y aurait dans cette perspective un pacte générationnel de solidarité. Enfin, c'est une ponction sur la valeur économique produite par des gens qui produisent, eux, parce qu'ils ont un emploi, précisément. Hein, toujours cette même cécité sur une conquête majeure et qui nous fait lire à contresens, hein, de même que nous disons que les fonctionnaires ont un emploi à vie alors qu'ils ont du salaire à vie et que ce n'est pas leur emploi qui définit leurs droits. Hein, ils sont payés pour leur grade, pas pour leur poste. Même si les réformateurs veulent évidemment introduire une logique d'emploi dans la fonction publique, avec ce qui va avec, le chômage, les employeurs, en fait, etc., etc., bien sûr, mais ça reste quand même une entreprise qui n'est pas aboutie. Massivement, en tout cas, les fonctionnaires d'État restent bien des salariés sans emploi et avec salaire, hein. Et salaire à vie, avec une pension qui est la prolongation du dernier salaire. De même, nous lisons à contresens les retraites quand nous en faisons une affaire de solidarité intergénérationnelle entre des actifs qui, eux, produisent de la valeur économique et puis des retraités qui ont le mérite d'en avoir produit. Donc c'est quand même normal qu'on ne les laisse pas sans rien, puis qui en plus ont été solidaires de la génération d'avant quand ils étaient eux-mêmes actifs, et donc, ma foi, et c'est normal qu'ils bénéficient de la solidarité. Voilà ce type même de vision aliénée, hein, dans laquelle nous consentons, hein, au récit que nos maîtres font du réel. Hein. Une classe n'est dirigeante que pour autant qu'elle peut convaincre ceux qu'elle domine de son récit du réel. Hein. Et lorsque nous parlons de solidarité intergénérationnelle avec les retraités, nous sommes dans l'aliénation au récit capitaliste du réel. On ne peut produire de valeur que sur un marché du travail qui met en valeur des capitaux, enfin, en produisant des marchandises qui mettent en valeur des capitaux. Et donc, les retraités, évidemment, ne produisent pas de valeur. Ben oui, bien sûr, ils ne produisent pas de valeur capitaliste, mais ils produisent une valeur anticapitaliste, précisément, qui correspond aux 260 milliards de pensions qu'ils perçoivent, hein, et qu'ils produisent. Les retraités ne dépensent pas un argent qui serait venu d'ailleurs. Les retraités produisent une valeur alternative à la valeur économique capitaliste. Et si nous ne payions plus les retraités, notre PIB diminuerait de 260 milliards d'euros. Ce n'est pas de l'argent qui est produit ailleurs et qui va encore une fois à des gens utiles mais non productifs. C'est de l'argent qui ne serait pas produit, tout simplement. Et parce que nous ne reconnaîtrions pas que les retraités produisent. Nous le reconnaissons, nous le reconnaissons en soi, dirait Marx, mais pas pour soi, c'est-à-dire que la pension des retraités est une subversion complète de la logique du capital, mais nous la lisons en son contraire, et du coup il n'y a pas une classe pour soi qui assumerait cette alternative et qui dirait ce qui est bon après 60 ans est tellement meilleur avant, et tout le monde a droit au salaire à vie. Imaginez, c'est banal, mais enfin, imaginez des grands-parents, par exemple. J'étais dans un débat en Belgique où on appelle les retraités, on les appelle des pensionnés dans la Belgique francophone, et un interlocuteur me dit, moi j'ai un gamin de 7 ans, il m'a dit l'autre jour, moi quand je serai grand, je serai comme papy, je serai pensionné. Un gamin qui a tout compris, c'est-à-dire qu'il voit ses parents qui, eux, sont soumis aux actionnaires et aux employeurs, et dont la maîtrise du travail est assez limitée, il voit ses grands-parents heureux au travail, c'est à peu près les seuls heureux au travail aujourd'hui, les grands-parents, et évidemment, son ambition est d'être comme eux. Donc, ses grands-parents qui n'osent pas dire, c'est comme les fonctionnaires qui disent qu'ils ont un emploi à vie, parce qu'ils n'osent pas dire qu'ils ont un salaire à vie, c'est tellement politiquement incorrect de dire qu'on a un salaire à vie. Et ses grands-parents, c'est pareil, oh là là, jamais ils ne diront qu'ils ont un salaire à vie. Ils n'osent pas le dire, justement. Et ils refilent à leurs petits-enfants 100 euros pour l'anniversaire, histoire de bien les mépriser. Leur responsabilité, c'est pas de leur refiler des sous. Les transferts monétaires des grands-parents vers les petits-enfants sont considérables. C'est des milliards d'euros en France aujourd'hui. Ça entretient la galère dans laquelle sont les jeunes. Tout ça fait partie du dispositif, évidemment. La responsabilité des grands-parents, c'est de dire, mais écoute, moi je suis heureux au travail parce que je suis payé à vie, oui, oui, tout à fait. Et toi qui maquilles tes diplômes pour avoir un job, t'as droit au salaire à vie. Imaginez ce que cette mutation des représentations, c'est-à-dire le fait d'assumer le réel, c'est ça. Le réel, c'est que nos PIB n'ont pu doubler tous les 40 ans au cours du XXe siècle. Non pas parce qu'il y aurait une espèce d'efflorescence de la marchandise capitaliste, mais parce que les combats ouvriers ont imposé la reconnaissance comme valeur économique de l'activité des soignants en matière de santé. Jusque dans les années 50, les soins, ce n'est pas du travail, c'est de l'activité utile. Ça produit de la valeur d'usage, mais c'est des bonnes sœurs. Les bonnes sœurs, c'est des femmes. Les femmes, c'est très utile, mais ça produit rien, c'est bien connu. Toute la domination masculine repose sur ce postulat. L'exaltation de l'utilité et la négation de la contribution à la production économique. Des femmes religieuses, en plus, consacrées au Seigneur. Donc évidemment, le truc est complètement bouclé. Elles ne travaillent pas. Et dans les années 60, ces femmes deviennent des infirmières avec soit le grade de la fonction publique hospitalière, soit l'emploi d'une clinique privée. Et les soins infirmiers deviennent du travail, c'est-à-dire produisent de la valeur économique. Le PIB augmente d'autant. On peut multiplier les exemples. La cotisation sociale, c'est une hausse du PIB. Ce n'est pas un prélèvement sur la valeur capitaliste qui irait à des bonnes sœurs, très utiles mais ne produisant rien. La cotisation sociale, c'est une augmentation de la valeur économique par son bout anticapitaliste, précisément. Des gens qui ne relèvent pas du marché du travail, qui ne mettent en valeur aucun capitaux, qui ne produisent pas selon la loi de la valeur travail, c'est-à-dire dans la dictature du temps, puisque la valeur travail, c'est de mesurer la valeur par le temps de production, et qui produisent 200 milliards chaque année, les retraités 260, les fonctionnaires, plus généralement, les services publics, 500 milliards. C'est-à-dire que une part extrêmement importante du PIB est produite dans une logique non capitaliste. Et cette situation de fait ne peut devenir révolutionnaire que s'il est assumé pour soi, par une classe qui dise, ben oui, achevons le travail. Supprimons la propriété lucrative, supprimons les employeurs. Tout ça, c'est du parasitisme dont on se passe très bien dans de nombreux endroits, allons au bout. Et vous voyez là, l'extrême importance qu'il y a pour la classe dirigeante, que nous restions convaincus, aliénés. Il n'y a pas d'exploitation sans aliénation. Aliéné à son discours, qui dit, ben non, un retraité, ça ne peut pas produire, enfin. Pas plus qu'un fonctionnaire. Un fonctionnaire ne travaille pas. Ah, s'il avait des employeurs, ah, là, il travaillerait. Quelqu'un qui n'a pas d'employé ne peut pas travailler, quand même. Vous voyez, notre frilosité dans la reconnaissance du déjà-là, qui sous-estime les possibles sur lesquels nous pouvons nous fonder pour, non pas pour corriger le capitalisme par de la justice fiscale, ça c'est le projet socialiste, mais pour sortir du capitalisme en assumant ce cas de révolutionnaire, potentiellement révolutionnaire. Mon bouquin s'appelle « Puissance au pluriel du salariat ». Le salariat n'est pas puissant, il a des potentialités de sortie du capitalisme pour autant que nous le lisons pour ce qu'il est. Ce qu'il est, j'y insiste, hein, la croissance du PIB au XXe siècle, la croissance de la valeur économique au XXe siècle, ce n'est pas d'abord une croissance capitaliste. Contrairement à ce que nous racontent Stiglitz, Vivray et autres médias, c'est prendre le symptôme pour la réalité. Bien sûr que le PIB est construit à partir du prix des marchandises, dont on enlève les consommations intermédiaires pour avoir la valeur ajoutée qui se partage entre salaire et profit. Bien sûr qu'on part du prix des marchandises, mais le prix des marchandises, ce n'est pas leur valeur. C'est ça le point central. Comment est-ce qu'on construit le prix des marchandises ? On construit le prix des marchandises en ajoutant, au-delà de la consommation intermédiaire, mais la partie valeur ajoutée qui est dans le prix des marchandises, c'est le profit. Et puis c'est le salaire. Et dans le salaire, comme dans le profit, il y a l'impôt. Il y a un impôt sur le profit, il y a un impôt sur les bénéfices, il y a un impôt sur le patrimoine, je ne sais pas quoi. Dans le salaire, il y a l'impôt sur... les personnes, il y a les RPP, il y a surtout la TVA, il y a l'impôt foncier, la taxe d'habitation, bon. Donc tout ça est inclus dans le prix des marchandises, l'impôt est inclus dans le prix des marchandises à travers la comptabilisation du salaire comme coût par l'employeur, par le vendeur de la marchandise. Et puis il y a les cotisations. Les cotisations font partie, bien sûr, du prix de la marchandise. Mais, et c'est là le mais absolument central, l'impôt et les cotisations ne sont pas produites par le travail du producteur de la marchandise. L'impôt et les cotisations sont produits en dehors de la logique du capital, par des fonctionnaires, par des parents... Ça, c'est les allocations familiales, les cotisations famille, par des soignants, c'est la cotisation santé, par des retraités, c'est la cotisation vieillesse, par les chômeurs, c'est la cotisation emploi. Voilà les producteurs de ces cotisations et de ces impôts. L'impôt est produit par les fonctionnaires. Pour qu'une monnaie ne soit pas inflationniste, il faut qu'il y ait en face du travail qui produit de la valeur. Le travail qu'il y a en face de l'impôt, c'est évidemment le travail des fonctionnaires. Les fonctionnaires ne dépensent pas. Ça, c'est la lecture capitaliste. Encore une fois, une classe qui n'existe qu'en ponctionnant une partie de la production du travail d'autrui par l'existence de la propriété lucrative, du marché du travail, de la valeur travail, de la création monétaire par crédit bancaire, pour prendre les quatre institutions capitalistes centrales en la matière, et là, elle ne peut pas dire autre chose qu'il n'y a de valeur que dans cette logique. Mais nous ne sommes pas obligés de nous aliéner à ce récit au point de nier les conquêtes du mouvement ouvrier au XXe siècle. Et de ne pas voir que la hausse de l'impôt, ça n'est pas une ponction sur la valeur capitaliste. La hausse de l'impôt qui marque le XXe siècle massivement, c'est la reconnaissance comme valeur économique du travail fait dans les services publics. Tout comme la hausse des cotisations sociales qui est alors là, l'invention spécifique du XXe siècle. Et n'est pas une ponction sur la valeur capitaliste, c'est un ajout de valeur parce que on attribue une valeur économique à l'activité des retraités, des soignants, des parents et des chômeurs. C'est ça le résultat révolutionnaire de la classe ouvrière. Et il faut être aveuglé à la fois, soit par de l'aliénation, soit par une espèce de vindicte contre cette classe, parce que je ne sais pas quoi, il aurait trahi, il aurait été mené par des traîtres, ou je ne sais pas quoi, pour ne pas le voir. Pourquoi est-ce que la croissance du PIB ne peut pas s'expliquer par la valeur capitaliste ? Mais parce que le capitalisme mesure la valeur économique par le temps. Que nous appelons la valeur travail, hein, c'est l'institution centrale du capitalisme. Hein, j'ai déjà donné une liste, hein, propriété lucrative, marché du travail, création monétaire par crédit bancaire et valeur travail. La valeur travail, c'est pas la valeur du travail concret. Bon, ça, le fait que le travail soit humanisant parce qu'il nous, le travail concret, hein, parce qu'il nous confronte à l'altérité, il nous fait sortir du solipsisme, etc. Bon, ça, d'accord. Mais la valeur travail, c'est autre chose, c'est quelque chose qui concerne la valeur économique. Donc le travail abstrait, pas le travail concret. Vous voyez la différence entre travail concret et travail abstrait ?
Ça serait bien que tu le précises.
Ouais, bah d'accord. Quelqu'un est chaudronnier, ça c'est tout le monde voit ce qu'il est, d'accord ? Mais si vous dites qu'il est OP2, ça ne dit rien sur ce qu'il est. Chaudronnier, quelqu'un qui est comptable, vous voyez ce qu'elle est ou ce qu'il est. Mais si vous dites qu'elle est, je ne sais pas quoi, cadre B deuxième échelon, ça ne va rien dire sur ce qu'elle fait, d'accord. Cadre B deuxième échelon, c'est la mesure du travail abstrait. C'est bien une mesure du travail, mais qui ne désigne aucun travail concret, qui désigne la contribution à la valeur économique, soit du poste, si on est dans le privé. La convention collective inscrit les postes de travail dans une hiérarchie des qualifications. Et donc, on va être, c'est un poste d'OP2, par exemple, bon, d'accord. Soit des personnes, qualification des personnes, ça c'est le statut de la fonction publique, et on va être cadre B, deuxième échelon, ça c'est le statut de la personne, c'est la qualification de la personne, ça dit sa contribution à la production de valeur économique. Donc, le travail abstrait, c'est OP2. C'est bien une mesure du travail, ça renvoie bien au travail, OP2, cadre B, deuxième échelon, c'est bien une mesure du travail, c'est le travail abstrait, c'est-à-dire le travail qui fonde la valeur économique. Le travail concret, il fonde la valeur d'usage. Toute chose a à la fois une valeur d'usage, enfin, toute chose peut avoir, mais peut avoir une valeur d'usage, une valeur économique. Et si je fais un café chez moi, je produis une valeur d'usage, mais je ne travaille pas, comme on dit, hein. Je produis uniquement de la valeur d'usage. Si je fais le même café comme salarié d'un restaurateur, à la production de valeur d'usage s'ajoute une production de valeur économique qui va à la fois générer le profit du restaurateur et mon salaire. Et là, je travaille. Le travail, c'est lorsque la produit, c'est une convention. C'est une convention sociale, c'est-à-dire quelque chose qui est le fruit d'une lutte tout à fait décisive, bien sûr. La valeur économique, c'est le lieu de la violence sociale. C'est par la valeur économique qu'une minorité s'approprie une partie du produit du travail d'autrui. Donc la lutte de classe va définir des conventions en matière de travail. Et la convention capitaliste, c'est, encore une fois, le fait de mettre en valeur du capital d'un propriétaire lucratif en se présentant sur un marché du travail comme force de travail et en produisant des marchandises sous la dictature du temps de travail. Le travail abstrait, c'est donc le fondement de la valeur économique. Le travail concret, c'est le fondement de la valeur d'usage. Et tout ce qui se joue en matière de lutte de classe se joue dans la valeur économique. C'est de ça que l'on parle ce soir, la valeur économique. Et la mesure du travail abstrait dans le capitalisme, c'est le temps. Ce cahier, ce crayon, ce micro, ce sont des valeurs d'usage complètement hétérogènes, d'accord ? Mais dans le capitalisme, et exclusivement dans le capitalisme, leur valeur économique, c'est le temps de travail qui, en moyenne, a été nécessaire pour les produire. C'est ça, leur valeur économique. Là encore, notre aliénation, c'est de dire que, oui, mais ça, c'est dans la nature. Que, par nature, nous avons trois objets hétérogènes, trois valeurs d'usage hétérogènes, qui ne sont pas comparables, qui ne sont pas commensurables. Et si on veut les comparer, il faut aller chercher un dénominateur commun qui sera le temps de travail nécessaire à leur production. Ça, c'est notre aliénation de dire cela. C'est-à-dire que nous adhérons au récit du réel capitaliste qui nous dit que le fondement de la valeur, c'est le travail abstrait mesuré par le temps. Alors même que nous avons conquis tout à fait autre chose, d'infiniment plus intéressant et émancipateur, puisque... Comment est-ce qu'on évalue, par exemple, le travail de l'administration, la contribution de l'administration au PIB? Et encore une fois, ce n'est pas rien. C'est des centaines de milliards d'euros. Comment est-ce qu'on l'évalue? En additionnant les qualifications des fonctionnaires. C'est-à-dire que ce qui fonde la valeur, c'est la qualification du producteur. Ça n'a rien à voir avec le temps de travail. C'est infiniment plus émancipateur. Le temps de travail, c'est une mesure tout à fait mortifère du travail abstrait. Alors, la qualification du producteur, c'est aussi un enjeu de lutte de classe. Ça, on pourrait y venir dans le débat, je vais pas le mentionner tout de suite. Pourquoi une hiérarchie des qualifications? Pourquoi pas un seul salaire pour tous? Tout ça, je crois qu'il faudra qu'on discute de ça, certainement. Mais la mesure de la valeur par le temps, c'est tout à fait mortifère, parce que si... vous considérez la concurrence intercapitaliste, chaque capitaliste va avoir intérêt à réduire la durée du travail par unité produite, parce qu'il va vendre son bien, enfin son bien, le bien que ses salariés ont produit au prix du marché, c'est-à-dire au temps en moyenne nécessaire pour le produire. Je donne un chiffre tout à fait imaginaire, pour une bagnole, mettons 2000 heures, et il va la produire en 1800 heures. Et donc, il va non seulement avoir la plus-value qu'il fait en exploitant les 1800 heures de travail des salariés, mais en plus une plus-value extra de 200 heures. Donc, chaque capitaliste cherche à réduire le temps de travail. Le premier est immédiatement qui bénéficie de cette plus-value extra pendant un certain temps, et le plus vite possible... imité par les autres, mais quand tout le monde est à 1800 heures, on passe à 1600. Puis quand tout le monde est à 1600, c'est 1400. Puis quand tout le monde est à 1400, c'est 1200, c'est 1000, c'est 800, c'est 600. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Structurellement, la mesure de la valeur par le temps fait qu'il y a en permanence une élimination relative du travail vivant qui est extrêmement dangereuse pour le taux de profit. C'est d'ailleurs pour cela que, pour tenter de faire face à cette baisse du taux de profit générée par l'autodestruction de la valeur dans la logique capitaliste, le capitalisme connaît une efflorescence de la marchandise pour tenter de multiplier le lieu où s'opère la production de valeur. Mais cette efflorescence de la marchandise ne doit pas être prise de manière symptomale comme une efflorescence de la valeur capitaliste, pas du tout. Vous pouvez produire en 2010 10 fois plus de bagnoles qu'en 1970, 40 ans plus tôt, mais s'il faut 10 fois moins de temps pour produire une bagnole, vous ne produisez pas un centime de valeur de plus. Donc, ne confondons pas encore une fois l'efflorescence de la marchandise capitaliste, qui est une tentative de réponse du capital. Marx explique ça très longuement dans le Capital, de la classe capitaliste à l'élimination relative du travail vivant, qui est structurelle dès lors qu'on mesure la valeur par le temps. Ne confondons pas ça avec une progression de la valeur capitaliste. Au contraire, c'est une tentative, mais pas totalement aboutie, de compenser la réduction de la valeur de chaque bien qui est inhérente à la logique du capital. Et bien sûr aussi, mesurer la valeur par le temps, c'est aussi condamner le travail concret. Dès que le capitalisme arrive quelque part, arrive aussitôt la dictature du temps. Prenez maintenant l'hôpital ou la fonction publique, dans laquelle le New Public Management instaure des modes de management capitaliste. Aussitôt, vous avez les protocoles, les objectifs de quantité à faire en temps de temps, etc. La dictature du temps arrive tout de suite, hein, c'est le propre du capitalisme. Au demeurant, quand les bourgeoisies des villes, qui sont les prémices du capitalisme à la fin du Moyen-Âge, justement, tentent de s'affirmer, ils mettront 5 siècles pour le faire, c'est long, mais enfin, tentent de s'affirmer comme détenteurs de la définition et de la maîtrise de la valeur contre ceux qui le font à l'époque, l'Église et l'aristocratie, et ben, en face des tours de l'évêque ou du donjon du château, ils font une tour, un beffroi, et dessus ils collent une horloge. Hein. On est dans la symbolique, certes, et encore une fois, il faudra 5 siècles pour convaincre le peuple de la légitimité de mesurer la valeur par le temps, au point qu'aujourd'hui, encore une fois, nous sommes tout à fait convaincus que ce qui mesure la valeur, c'est le temps. Eh bien non, hein, ça c'est une violence capitaliste qui détruit le travail concret. Hein. Aujourd'hui, tout ce qu'on appelle la souffrance au travail, c'est en réalité une souffrance à la valeur travail, c'est-à-dire à la mesure du travail par le temps. Mais j'en reviens à mon propos initial. Si on mesure la valeur par le temps, du coup, la croissance de la valeur capitaliste ne peut pas progresser du double tous les 40 ans, comme nous le connaissons depuis un siècle dans les pays, comme nous l'avons connu au XXe siècle, dans des pays capitalistes de grande maturité de l'Ouest européen. Ce doublement n'a été possible que parce qu'il y a eu un ajout, à cause de la lutte de classe, à la valeur capitaliste, de la valeur non capitaliste produite par les fonctionnaires, par les retraités, les soignants, les parents et les chômeurs. C'est cela qui a fait croître le PIB. Le PIB, c'est pas simplement le triomphe de la marchandise, c'est c'est 40% de valeur non capitaliste. Alors, pour que cette valeur non capitaliste devienne vraiment une valeur anticapitaliste, il faut qu'elle soit portée par une classe qui n'existe plus. La classe ouvrière est en panne depuis 30 ans, elle n'existe plus comme classe, ni comme organisation, ni dans son discours. Pour qu'il y ait une classe, il faut qu'il y ait une organisation de classe, il faut qu'il y ait un discours autonome. Bon, le discours autonome a été perdu. Des dirigeants ouvriers qui parlent de problèmes démographiques, de solidarité intergénérationnelle, etc. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'acceptation du discours. Mais ces dirigeants n'existent que parce qu'ils sont à notre image et que nous-mêmes, nous participons à cette aliénation. La nécessité de sortir du capitalisme a un fondement extrêmement important dans notre réel actuel. Vous voyez comment on peut pousser plus loin l'existant. Nous pouvons enfin, au moins comme projet, ensuite comme étape, ça se discute, mais comme projet, vous voyez que le salaire à vie peut devenir un droit politique au moment de la majorité. La majorité, qui est pour le moment une majorité de suffrage, simplement, s'enrichit d'une majorité économique. Pour le moment, nous sommes des mineurs économiques. Nous sommes des gens qui n'avons droit, pas du tout droit à la parole, ce que nous avons droit au pouvoir d'achat, c'est tout. Dès qu'on revendique une hausse du pouvoir d'achat, on est dans l'aliénation. On accepte ce rôle de mineur économique qui revendique une hausse du pouvoir d'achat. L'alternative à cette minorité économique, c'est une majorité économique qui pousse plus loin le salaire à vie et la cotisation, qui sont déjà tellement présents dans notre univers capitaliste mûr, disons, de l'Europe occidentale, surtout dans l'Europe bismarckienne. Et bien, nous pouvons très bien avoir comme projet d'attribuer à chacun, le jour de sa majorité, un droit de qualification universelle qui, à chacun, donc, y compris les handicapés congénitaux, enfin tout le monde, comme le droit politique, comme le droit de suffrage, c'est un droit politique. C'est un droit politique, donc, pour tous, et inconditionnel. Inconditionnel, irrévocable. Irrévocable, c'est un droit à vie, c'est un droit qui ne suppose aucune condition, et qui pose chacun comme en mesure de participer à la définition, à la production et à la répartition de la valeur économique. On peut imaginer que tout le monde à 18 ans, si c'est 18 ans, est par exemple le premier niveau de qualification à 1500 euros par mois. Et puis ce droit s'accompagne d'une seconde dimension qui est le droit à la carrière salariale avec la possibilité s'inscrire dans une hiérarchie des salaires de 1 à 4 par exemple, et donc dans un salaire qui irait de 1500 à 6000 euros par mois, avec des soutiens, des incitations à passer les épreuves de qualification. Le premier niveau de qualification est acquis sans condition, les autres niveaux sont acquis moyennant épreuves de qualification, mais une fois qu'ils sont acquis, c'est irrévocable. Évidemment, un salaire à la qualification à vie suppose un deuxième âge politique, sinon les risques de gérontocratie sont assez élevés. Un deuxième âge politique qui est l'entrée dans une seconde carrière à 55 ans, ou je ne sais pas quoi moi. C'était la revendication de la CGT jusqu'au baissage de culotte des 15 dernières années, mais c'était 55 ans à la retraite. 55 ans, où là, bien évidemment qu'on continue à faire carrière, on n'entre pas dans une espèce de no man's land où on attend Godot. Comme on nous le présente, la retraite comme temps de loisir après une longue vie de labeur. Bel idéal. Et pour le labeur et pour le loisir. il s'agit d'une seconde carrière dans laquelle on est. On n'a plus aucune fonction opérationnelle, par exemple, aucune responsabilité opérationnelle. À un âge politique de 55 ans, chacun quitte les responsabilités opérationnelles, laisse ça aux plus jeunes et explore des chemins nouveaux du travail. Enfin, il y a de quoi faire de toute façon, en dehors des responsabilités opérationnelles, beaucoup de choses. Et ça jusqu'à sa mort, avec possibilité de monter en qualification jusqu'à sa mort si on le désire. Aussi de ne pas bouger. On peut rester à 1500 euros pour sa vie si on le souhaite, bien sûr. Cette perspective-là de la suppression du marché du travail en généralisant la situation de la fonction publique d'État et des retraités doit se doubler évidemment d'une maîtrise de l'investissement. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un salaire à vie, encore faut-il pouvoir exprimer sa qualification en maîtrisant l'investissement et la vie des entreprises. Donc, le paquet cadeau des 18 ans inclut aussi, d'une part, le droit de propriété d'usage de tous les lieux de travail. Une fois, nous n'avons absolument pas besoin de propriétaires pour travailler. Ce sont des parasites absolus, non seulement inutilité, mais très très négatif. On s'en aperçoit maintenant de façon très très forte, bien sûr. La propriété d'usage, vous voyez en quoi elle est distincte de la propriété lucrative. La propriété lucrative, c'est le droit de tirer d'un patrimoine le revenu tiré de l'exploitation du travail d'autrui. Lorsque je suis propriétaire d'un immeuble que je loue, j'exploite le travail d'autrui, bien sûr, je tire un revenu de ma propriété en ponctionnant sur le travail d'autrui. Mais les formes essentielles de la propriété ne sont pas immobilières, c'est des propriétés de titres financiers, ces portefeuilles sont précisément ce qu'il faut supprimer et que nous pouvons supprimer puisque nous le faisons déjà en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de retraite. Il y a déjà des tas d'endroits et une part très importante du PIB qui échappe totalement au financement de l'investissement par les marchés financiers, mais qui n'échappe pas en revanche à une absence de propriété d'usage. Les fonctionnaires, par exemple, ne sont pas propriétaires d'usage de leur lieu de travail, sinon ça se saurait. Ça, c'est à conquérir, bien sûr. Mais pas que les fonctionnaires, tout le monde. Mais c'est vrai qu'il peut, ne pas y avoir de capitaux investis et pourtant une absence de propriété d'usage. Les nationalisations de 45 comme celle de 81 n'étaient pas du tout assorties d'une propriété d'usage de l'entreprise par les salariés et par les parties prenantes. Parce qu'il n'y a pas que les salariés qui peuvent être propriétaires d'usage. Vous voyez bien, la SNCF, c'est une entreprise qui engage plus que les cheminots parce qu'elle engage aussi l'aménagement du territoire, des choix énergétiques très lourds. Donc, il s'agit que soient propriétaires d'usage de la SNCF, les cheminots, bien sûr, et qu'ils soient au premier rang pour décider de l'investissement ferroviaire, mais également, et puis des formes de travail, enfin, etc., pour élire leur direction, bien sûr, tout cela est décisif dans la propriété d'usage. La propriété d'usage, c'est décision de l'investissement, décision de la direction, enfin des modes d'élection de la décision, et puis décision de la de ce qui est produit et de la façon de le produire. Mais ça ne peut pas être eux seuls. Il faut aussi qu'il y ait des représentants des parties prenantes en termes d'aménagement du territoire, de choix énergétiques, etc., etc. Donc, pour la boulangerie du quartier, les salariés de la boulangerie, en revanche, peuvent être les seuls, peut-être aussi avec un représentant du quartier, parce qu'elle a un impact sur le quartier, propriétaire d'usage de la boulangerie et décider de l'investissement, etc. Ça, c'est un autre droit qui est forcément affecté à la majorité, comme lié au droit de qualification. Et puis, la maîtrise réelle de l'investissement, et non pas simplement formelle par des décisions qui seraient prises dans l'entreprise, mais sans financement, ça suppose bien sûr que le profit actuel, qui est une ponction qui n'existe que parce qu'il y a valeur travail, marché du travail et propriété lucrative, que ce profit soit remplacé, mais comme il l'est déjà en matière de santé par exemple, en matière de retraite, par une cotisation investissement, une cotisation économique qui ira à des caisses qui financeront l'investissement par subvention, sans remboursement ni taux d'intérêt. Il n'y a de remboursement et de taux d'intérêt, il n'y a de crédit que parce qu'il y a eu appropriation privée de la valeur. s'il n'y a plus appropriation privée de la valeur, d'aucune sorte, par quiconque, alors le crédit disparaît, c'est fondamental. Hein. Ce projet n'a rien à voir avec de faire un pôle public bancaire ou de faire du crédit public à côté du crédit privé. Tout ça, c'est de l'aménagement du capitalisme qui prolonge la crise dans laquelle il est. Hein. Il est entré depuis un siècle. Il s'agit de tirer parti de la cotisation, de l'énorme émancipation qu'elle représente. Ce sont les pays qui financent la retraite sans aucun appel à l'épargne, qui ont les meilleurs sans fonds de pension, qui ont les meilleurs résultats, et de très loin, sont le système hospitalier fonctionnait beaucoup mieux lorsque le taux, la croissance régulière du taux de cotisation santé permettait de reconnaître le travail de santé que depuis que le gel de son taux, de ce taux, a entraîné la création de la CADES par Juppé en 1997 et que la CADES emprunte sur les marchés financiers pour financer l'investissement. Ça marche beaucoup plus mal. C'est beaucoup plus cher, etc. C'est des expériences qu'il faut que nous montrions. Hein. Que la cotisation sociale est infiniment plus performante, je dirais, si on n'adopte pas les critères capitalistes de la performance, bien sûr, émancipatrice que la propriété lucrative pour financer l'investissement. Et donc, dans le dernier des droits, je dirais, dans l'attribution de la majorité économique à 18 ans, ou à 17 ans, ou à 16 ans, moi je ne sais pas trop quel âge, peu importe, là, le dernier des droits, c'est celui de participer à la délibération des caisses d'investissement. Vous voyez, le paysage qui se déploie là, hein, je termine là-dessus, j'en ai fini. À 18 ans, chacun est doté d'un droit de qualification. Ce droit de qualification s'exprime dans un salaire à vie, dans une possibilité de carrière salariale, dans le droit de propriété d'usage du lieu de travail et dans la participation à la délibération des caisses d'investissement. Et tout le salaire, tout le PIB, du coup, va au salaire. C'est ça le salaire universel. C'est pas simplement le salaire pour tous, c'est le salaire pour tout. Tout le PIB va au salaire. Et cela, c'est tout le PIB au salaire, c'est le salaire socialisé. Oui, merci beaucoup. Tout le PIB au salaire socialisé, c'est encore une fois, c'est la prolongation de ce qui existe déjà, à condition qu'on sache le lire. Ce qui existe déjà, c'est que 45% du salaire est socialisé. Quelqu'un qui touche 2000 euros net, par ailleurs, il y a 1700 euros qui vont à la sécurité sociale. 45% du salaire est socialisé. Ça veut dire quoi, socialiser ? Ça veut dire que le droit n'est plus fondé sur l'entreprise. Le droit est interprofessionnel. Le droit, il est lié à la personne. J'ai droit à la couverture santé, quels que soient les aléas de mon rapport au marché du travail. Et ce n'est pas mon ancien employeur qui paye ma pension. C'est une caisse qui mutualise les valeurs ajoutées et qui assure la sécurité de ma pension parce qu'elle ne dépend pas de la logique d'entreprise. La sécurité sociale, c'est ce qui dissocie totalement les droits de l'entreprise. L'entreprise ne génère aucun droit et il faut qu'elle ne génère aucun droit. Que l'entreprise soit un lieu d'exercice des droits, parce que c'est un lieu de socialisation important, que ce soit un lieu, par exemple, d'exercice de la culture, par exemple. Mais oui, bien sûr. De nombreux CE, d'ailleurs, l'ont exprimé fort bien. Mais qu'en revanche, elle soit fondatrice de droits, sûrement pas. Là, c'est une régression sociale considérable que de remettre sur l'entreprise les droits santé, par exemple, avec le complémentaire santé, de remettre sur l'entreprise des droits que précisément des droits à retraite dans des dispositifs de branche ou d'entreprise, etc. Tout ça, c'est une très grave régression par rapport à une conquête importante qui délie les droits de l'entreprise. C'est aussi une façon d'éviter l'échec de l'URSS. L'échec soviétique, c'est pour une grosse part le fait que l'entreprise était fondatrice de droits, qu'il y avait une espèce d'allégeance vis-à-vis de l'entreprise, parce que l'entreprise pourvoyait à tout. Et qu'une fois que la médiocrité est quelque part, elle n'en sort plus. Il n'y avait pas le droit de licenciement. Évidemment, dans ce que je dis là, le droit de licenciement devient général, y compris pour les fonctionnaires. Vous voyez qu'il a complètement changé de sens. Aujourd'hui, le droit de licenciement, il envoie les personnes à l'initiative d'un employeur, initiative absolument arbitraire d'un propriétaire, dans les ténèbres extérieures de la valeur économique. Il n'y a plus de droit, c'est plus... Donc, voilà. À partir du moment où chacun est titulaire d'une qualification, il ne fait pas l'affaire, il ne fait pas l'affaire, on ne va pas non plus le garder indéfiniment. Sous réserve, évidemment, de vérification par les syndicats de la légitimité de la chose, etc. etc. Enfin, il y a un droit, ou par le droit, enfin, bien sûr, bien sûr. Mais le licenciement ne signifie pas sa mort économique. Il part avec son salaire, avec sa qualification. Et d'ailleurs, il peut tuer père et mère et ne rien faire. Il est toujours payé. Le salaire, c'est comme le droit de vote. C'est quelque chose qui est un droit politique. Hein. C'est inconditionnel, c'est fondamental. Hein. Ça ne veut pas dire que, en revanche, la progression salariale ne se fera de manière inconditionnelle. Non, la progression salariale suppose que l'on passe des épreuves, et dans ces épreuves, il y aura, d'une façon ou d'une autre, une vérification du travail fait ou de la capacité, ou je ne sais pas quoi. Ça, tout ça est à non seulement, pas simplement à imaginer, parce que nous avons déjà, l'attribution de la qualification au poste de travail des conventions collectives ou aux personnes dans le statut de la fonction publique, on a déjà des pratiques à améliorer, mais enfin, nous n'allons pas inventer tout en n'étant rien, devenir tout, et du passé faisant table rase. Tout ça, c'est des enfantillages. Hein. Il s'agit bien d'assumer ce cadre émancipateur, le réel, et de le pousser plus loin. Donc, voyez le parcours des personnes, il est confirmé en permanence, hein, alors que l'accompagnement des chômeurs aujourd'hui, il s'agit d'accompagner leur employabilité. Donc c'est autant accompagner quelqu'un qui pousse son rocher sur la colline. Hein. C'est l'impuissance des accompagnateurs, bien que si on a confirmé l'employabilité, évidemment c'est un truc qui ne peut jamais arriver, puisque du coup l'emploi devient une asymptote qu'on n'atteint jamais. Mais accompagner des personnes dont la qualification est irrévocable et qui ne peuvent que progresser en qualification, ce sera toujours nécessaire, là, cet accompagnement, mais il aura une toute autre effectivité. Il sera possible de passer de travailleur individuel à membre d'un collectif, à fonctionnaire, et puis de changer, tout ça va être possible, puisque l'horizon de l'individu sera sa mort, donc sera... infini, on va dire, à l'échelle de l'individu. Et à 55 ans, donc, entrer dans une seconde carrière. Pour faire image sur l'intérêt de cette seconde carrière, on pourrait prendre les parents et les grands-parents. Hein. C'est pas mal que les enfants aient à la fois des parents qui sont aux affaires, qui ont la responsabilité opérationnelle, d'accord ? Et puis qu'ils aient aussi affaire à des grands-parents qui n'ont aucune responsabilité opérationnelle et qui, du coup, ont avec eux une bonne distance. Ce qui est décisif pour eux. Le travail, c'est pareil. Je crois qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient aux affaires et puis d'autres qui soient dans une position plus expérimentale, plus distante, dans une seconde carrière, qui n'est pas une carrière de loisir, bien sûr. Le loisir n'existe que comme... variante aliénée du travail capitaliste. Vous voyez comment la sphère du travail et du loisir change complètement. Enfin, l'articulation des choses, la signification des choses change complètement. Dès lors que l'on maîtrise la valeur économique, alors la capacité à décider des valeurs d'usage de ce qu'on produit devient réelle. Du coup, on n'a pas forcément besoin de loisirs pour se reposer d'un truc emmerdant sur lequel on n'a aucune prise, ou pour chercher dans le bac à sable une autonomie dans le travail que l'on n'a pas dans les lieux décisifs, parce qu'on n'a aucune maîtrise de la valeur économique. Vous voyez, la question du loisir est posée complètement différemment, tout comme celle de la retraite, etc., etc., comme celle du hors-travail, comme on dit. Tout ça ne fait peut-être plus très sens. Voilà, on va peut-être en rester là pour ce propos liminaire.
D'accord, ben merci Bernard. Ben maintenant, si tu veux bien, on va laisser l'auditoire te mitrailler de questions.
Oui. J'en profite pour faire passer... Je me garde une feuille pour noter vos objections, mais j'en profite pour faire passer ce cahier. Si vous pouvez, Réseau Salaria, qui est une organisation, une association d'éducation populaire dont vous avez le manifeste sur le petit livret, la petite brochure là, pour un statut politique du producteur, c'est en gros ce que je viens de présenter à peu près, pour un statut politique du producteur. Et vous voyez que produire, ça n'est pas le productivisme. Capitaliste, ça n'a strictement rien à voir. C'est un retraité qui accompagne ses parents dans la mort produit de la valeur économique. Donc, c'est un changement complet de la définition du travail que nous faisons déjà. C'est ça. On n'a pas cherché encore une fois midi à 14h, on le fait déjà. Il faut l'assumer comme classe révolutionnaire. C'est ça la question. C'est-à-dire dire que cela doit se substituer aux institutions du capital. Non pas plus de pouvoir aux travailleurs. Le pouvoir au seul travailleur, non pas partageant autrement les gâteaux. Le gâteau revenir entièrement au salaire. Vous voyez, c'est ça. On n'est pas dans une démarche social-démocrate, on est dans une démarche révolutionnaire d'affirmation pour ce qu'ils sont des producteurs de la valeur économique. On n'est pas dans la justice fiscale. La justice fiscale, c'est un projet totalement anti-révolutionnaire. Il faut se battre contre la justice fiscale. On n'est pas dans la solidarité intergénérationnelle. Vous voyez, aussi tous les déplacements qu'il faut faire, y compris dans nos représentations assez spontanées. Si vous voulez participer ou connaître simplement l'activité d'une association d'éducation populaire qui est Réseau Salaria, qui essaye de produire des outils pédagogiques sur le net, des vidéos, des diaporamas, des petits bouquins, etc. Et puis d'organiser des formations sur les thématiques que je viens de développer. Vous pouvez laisser votre adresse email, mais bien écrite, s'il vous plaît, parce que sinon, elle ne sert à rien. Alors, le plus simple, parce que je me suis aperçu, moi, comme vieux prof demandant des adresses e-mail en début d'année, je me suis rendu compte que quand on a le nom et le prénom, ça aide aussi beaucoup, parce que ça aide souvent à lire l'adresse e-mail. Donc si vous pouvez mettre votre nom, votre prénom, et puis votre adresse e-mail pour recevoir les informations de Réseau Salaria. Cela dit, vous pouvez aussi aller sur le site qui s'appelle réseausalaria.info qui figure sur... Voilà, c'était une toute petite...